colloque. Une retransmission proposée par Canal Académie.
Merci pour votre accueil et toutes mes excuses vraiment pour mon retard. Il s'agit d'un très beau monument aux morts à la guerre de 14-18 qui se trouve à Ottawa, au Canada. Alors en fait, je ne vais pas vraiment beaucoup vous parler du sujet, je vais parler de la guerre, mais je vais parler de la guerre bien sûr, mais dans une optique, alors je vais commencer par de la démographie certes, mais alors le chemin d'accès, oui pardon, deux petites secondes, c'est vraiment un détail, j'y suis. Et alors je vais vous parler des séquelles de la Grande Guerre dans la culture imprimée, en utilisant un outil que je vais vous présenter très rapidement. Et donc, il y aura un peu de démographie, mais vous savez qu'à l'INED, à l'Institut National d'Études Démographiques, nous débordons de loin le comptage, l'exploration des rapports entre générations, etc. Et tout le contexte nous intéresse, et je vais peut-être vous parler davantage du contexte que la démographie elle-même. Enfin, quand même, je vais commencer par des données de base qui sont assez intéressantes. Ça a déjà été publié dans un 4 pages de l'INED, le bulletin Population-Société. C'est la proportion de survivants à chaque âge pour toutes les générations qui ont vécu la guerre de 14-18. Alors c'est en grande partie tiré de données que Jacques Vallin avait publiées autrefois, qui ont été actualisées. Et vous avez ici, sous forme graphique, ce qu'on appelle une table de survie. Donc vous avez en bas, sur l'axe horizontal, vous avez l'âge. Vous voyez qu'on est optimiste, on va jusqu'à 110 ans. Et puis, vous avez la totalité d'une génération en effectif. Et en haut, quand on extrapole la génération née en 1964, alors il s'agit uniquement des hommes, eh bien, vous voyez qu'il y a une petite mortalité infantile au départ, mais qui est quand même assez maigre. Et ensuite, on a la courbe de survie et la génération finit par s'éteindre avec là des hypothèses qui ont été faites sur son extinction, puisqu'elle est loin d'avoir atteint cette limite. Maintenant, quand vous regardez les générations plus anciennes, par exemple, la génération née en 1900, qui avait la chance d'avoir seulement 14 ans en 1914, alors vous voyez qu'elle est d'abord frappée par une considérable mortalité infantile. Cette mortalité infantile, elle est concentrée dans les premières années, les premières semaines, les premiers jours. C'est un phénomène dont on a totalement perdu l'idée. Je rappelle qu'on vient de loin et qu'au XVIIIe siècle, à l'âge de 7 ans, la moitié des enfants étaient morts. Il y avait plus de naissances dans le Royaume de France qu'il n'y en a maintenant dans la République. Il y avait 1 million de naissances sous Louis XV contre 800 000 maintenant, mais à l'âge de 7 ans, la moitié avait disparu. Ou à la veille de la Révolution, on était arrivé, il y avait quelques progrès qui avaient eu lieu pendant la fin du XVIIIe siècle, et on était arrivé à cette vie probable, c'est le nom qu'on donnait à ce concept, c'est-à-dire l'âge auquel il est probable que la moitié de la génération a disparu. Eh bien, c'était 11 ans et non plus 7 ans à la veille de la Révolution française, vous voyez que c'était encore très bas. Eh bien là, vous voyez que pour ces générations, ou celles nées en 1869, encore plus anciennes, vous voyez qu'il y avait des progrès qui ont été faits entre la génération née en 1869, donc trop vieille pour faire la guerre, trop âgée pour faire la guerre, et celle-ci qui était trop jeune pour la faire, il y a déjà un gain considérable dans la lutte contre la mortalité infantile qui est très visible. Mais enfin, en gros, il y avait, vous voyez, 25% de cette génération avait déjà disparu avant l'âge de 20 ans du fait de, même plus que ça, 28%, du fait de la mortalité infantile et juvénile. Alors quand on prend la malheureuse génération née en 1894, ceux de 14, la classe 14, donc comme vous le savez, qui a eu le malheur d'avoir 20 ans donc, au début de la guerre, ben, vous voyez qu'elle est ici, et elle a déjà, à la veille de la guerre, à l'âge de 20 ans, perdu 28% de ses effectifs. Il s'agit évidemment des hommes. Et puis la guerre la frappe, et elle perd à peu près la même proportion d'effectifs du fait de la guerre. Donc il ne reste plus, 4 ans après, à la fin de la guerre, dans cette génération, que 48% des effectifs totaux. Mais au fond, la moitié c'était la mortalité infantile et la moitié c'était la guerre. Alors ça vous donne une idée de ce qu'était aussi la mortalité infantile et finalement toute la lutte contre la mortalité infantile, illustrée par quelques grands noms comme Robert le professeur Debré, par exemple, ou dans les générations antérieures, Adolphe Pinard, l'inventeur de la puériculture, ont permis finalement de gagner des effectifs, des populations qui équivalaient aux hécatombes de la Grande Guerre. C'est quand même très important d'avoir ça en tête. On l'oublie souvent. Et puis ensuite, quand on... Alors évidemment, les gens qui étaient un peu plus âgés, qui ont quand même fait la guerre, mais qui l'ont fait à un âge plus avancé, ben vous savez que l'armée les mettait dans des fonctions plutôt logistiques, un peu à l'arrière. Enfin, il y avait toute une sélection qui était faite. Et finalement, ils ont été atteints par la guerre dans des proportions qui sont finalement tout à fait liées à leur âge. Donc ce sont les plus jeunes, ceux de 20 ans. Alors évidemment, qui ont été les plus frappés. Ensuite, les survivants, eh bien, ils vont connaître une courbe de survie qui va profiter de l'amélioration des conditions de vie, des conditions de santé, etc., des années suivantes. Bon, quand vous regardez la partie féminine, les femmes, pendant ce temps, du moins dans les territoires non occupés, dans les départements non occupés, ont continué de voir leur espérance de vie augmenter. Les progrès ont continué. La séparation entre civil et militaire était telle que, c'est, que ça s'est passé ainsi. On ne sait pas trop. En revanche, là, Jacques, tu pourras nous en parler éventuellement dans la discussion, ce qui s'est passé dans les 17 départements occupés. Des études récentes montrent que l'occupation de ces départements par les Allemands était extrêmement dure, sévère. Les gens étaient privés d'alimentation, tellement il y avait des livraisons à faire, etc. On oublie par exemple, c'est une chose qu'il faudrait quand même de temps en temps rappeler, que de très rares pays ont accepté de participer à des programmes d'alimentation des populations occupées. Le Portugal. Le Portugal a joué un grand rôle, on ne le sait pas assez, dans l'alimentation et les États-Unis avant leur entrée en guerre. La Suisse, par contre, qui avait été sollicitée, avait refusé de participer à tel programme. Ce sont des choses qui ont été révélées par des historiens assez récemment. Et il faudrait maintenant un peu fouiller l'état civil de toutes ces régions pour regarder un petit peu si les données de mortalité qui sont peut-être encore conservées dans ces archives sont récupérables. Parce que pendant la guerre, la Statistique générale de France n'avait pas pu, évidemment, récupérer les données de mortalité des 17 départements occupés. Et il n'y a pas eu de travail de reconstitution par récupération directe des documents depuis. Voilà. Alors, voilà un peu le contexte. Maintenant, donc vous voyez qu'il y a une mortalité différentielle qui est fonction de l'âge, mais de l'âge retraduite dans les catégories militaires et donc dans des fonctions différentes. Donc ça n'a rien à voir avec l'état de santé des gens. Il y a aussi le fait que la guerre est un métier, que les bisus, en quelque sorte, qui arrivent là, qui ont 20 ans, 1914, ne sont absolument pas rompus aux marches forcées, à la guerre, à la moitié de la guerre, etc. Alors que les deux ou trois générations précédentes venaient de faire leur service militaire dont la durée avait été allongée et avaient quand même un certain exercice physique et une certaine... voilà. Et ont donc à exposition égale ceux qui avaient deux ou trois années de plus parce qu'ils étaient rompus un petit peu au métier, même si les conditions de la guerre n'ont pas du tout été celles qu'on avait. C'était la mitraille qui frappait au hasard. C'est quand même ça qu'il y a. Il y a eu 300 000 morts dans la bataille de la Marne. Rien que la première bataille de la Marne, c'est 300 000 morts. Ce sont des choses absolument incroyables. Et donc, quand on lit ensuite tous les témoignages nombreux, très variés, passionnants, j'ai passé plusieurs mois à lire une quinzaine de ces récits, bon, le plus beau, le plus merveilleusement écrit, évidemment, c'est Maurice Genevoix, ceux de 14, mais vous avez des témoignages de toutes sortes. Il y a Bartas qui est antimilitariste, vous avez Richert qui est un Alsacien qui fait à la fois... en tant que soldat allemand, mais qui finit par déserter le front russe, le front français, enfin, qui raconte tout ça merveilleusement. Vous avez toute une série de récits à chaque fois. On sent que les soldats les plus aguerris au début du conflit arrivent à reconnaître les bruits des différentes bombes, différentes menaces qui leur tombent sur la tête. Mais ensuite, à mesure que la guerre se prolonge, ben, tout le monde est sur le même... pied, et donc chacun ses techniques de survie, mais les témoignages, quels qu'ils soient, quelle que soit l'idéologie des auteurs, vont un peu toujours dans le même sens, c'est le hasard qui frappe. On monte à l'assaut, puis alors qui sera frappé? On fait les comptes ensuite. L'armée a mis longtemps à faire les comptes. L'armée, c'est seulement au bout de 2 ans de guerre que l'état-major s'est dit que Il y avait un grand problème purement comptable. Est-ce que nos morts sont... Est-ce que nous sommes davantage frappés que l'ennemi? Et qu'est-ce que ça va donner si la guerre se prolonge, puisqu'on découvre qu'elle se prolonge? Et c'est à ce moment-là qu'on refait alors une enquête absolument incroyable, longitudinale. On va revenir aux dossiers de conscription, de mobilisation initiaux, et faire une, ce qu'on appellerait aujourd'hui une étude longitudinale avec des classicompteurs. C'est un des premiers usages des méthodes modernes de comptage. L'armée va faire un véritable décompte en prenant bien soin de classer tous les hommes selon le grade, et donc on a une mortalité selon le grade extrêmement précise grâce à ce travail d'analyse rétrospective. Voilà, voilà un peu l'introduction. Alors moi, je vais en fait maintenant vous parler d'autre chose, de la guerre aussi, mais sous un autre angle. Et j'espère que vous me le pardonnerez, parce que je trouve que j'ai beaucoup travaillé sur cette question-là, et je vais utiliser un outil étrange que vous ne connaissez peut-être pas, qui est Google Books. Qu'est-ce que ça vient faire là-dedans ? Google Books, c'est cette entreprise un peu folle que la société Google, dans laquelle la société Google s'est lancée, essaie de numériser la totalité des livres publiés à ce jour depuis le XVIe siècle. Alors, ils l'ont fait en grande partie. Ce programme est réalisé à peu près aux trois quarts et il est en train de se poursuivre. Il a commencé par les grandes bibliothèques américaines, il s'est poursuivi par des bibliothèques sur le continent européen, et notamment la bibliothèque municipale de Lyon, qui est la plus grande bibliothèque municipale de France, a contribué à ça. Alors, vous avez 20 millions de titres qui ont été numérisés à ce jour, des ouvrages, des brochures, des rapports. Il n'y a pas les quotidiens, parce que les articles, c'est difficile à scanner. Hein. Ça commence en première page, ça finit plus loin, c'est difficile. Il n'y a pas non plus les revues scientifiques. Bon, je n'entre pas dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que vous avez depuis le XVIIe siècle, 8 corpus, un corpus français, un corpus en anglais britannique, en anglais américain, allemand, italien, espagnol, russe, chinois, hébreu. C'est absolument inouï. Et vous obtenez cet accès libre, et instantanément, en une fraction de seconde, vous tapez une expression quelconque de 1 à 5 mots. Je ne sais pas, vous tapez « en revanche » et « par contre ». Et vous découvrez que « par contre » a été complètement dominant jusque dans les années 60, et que c'est le travail des puristes diffusé partout qui a fait que « en revanche » finalement a fini par supplanter « par contre ». Vous tapez « Rousseau, Voltaire », vous voyez que partout, dans tous ces pays, quand vous interrogez ces corpus séparément, vous apercevez que tout le XIXe siècle a été voltairien partout. Voltaire a une fréquence relative, une présence dans tous les textes imprimés, beaucoup plus forte que Rousseau, mais actuellement, dans tous les pays, Rousseau a fini par l'emporter. Et vous avez ainsi, je vous donne ainsi des exemples. Bon. Alors vous allez voir l'usage étonnant qu'on peut en faire. Donc chaque graphique vous donne une fréquence relative du mot ou de l'expression sur l'ensemble des mots, des expressions publiées la même année dans ces textes. C'est un pourcentage, donc c'est parfaitement comparable. Et alors, je fais l'hypothèse, qui est peut-être un peu forte, mais vous allez voir qu'on a quand même des arguments, que ça retrace de façon quand même révélatrice l'histoire de notre intérêt, l'importance de notre intérêt pour les événements, pour les acteurs, pour les auteurs, les notions, les valeurs, etc. Alors, juste très rapidement, une idée du volume du corpus, l'échelle est logarithmique, parce que nous n'avons cessé évidemment de multiplier le nombre des imprimés, et là vous avez donc le nombre de mots, de pages, d'ouvrages, etc. Ce graphique-ci est plus intéressant parce qu'il est un chiffre absolu et plus parlant, et vous voyez que le corpus, là je l'ai fait commencer en 1700, il est très maigre au départ, et puis vous voyez que la production imprimée, ça c'est assez intéressant, s'interrompt toujours très fortement pendant les guerres. Voyez, chaque guerre interrompt l'essor de la production imprimée. C'est vraiment extrêmement frappant. 1968 marque un pic. À quoi est dû le creux qui est derrière, je ne sais pas. Enfin, voilà. Donc ça vous donne une idée de... Alors j'ai divisé le nombre de pages par 850, le nombre de mots par 140 000 pour avoir des courbes qui se superposent. Et voilà un peu le corpus. Donc c'est un corpus d'une richesse absolument fabuleuse. Et je vais donc, je vous laisserai tout ça, je l'écrirai dans mon texte, et on ne mettra pas tous les graphiques, mais peut-être que sur une page, sur un site...
Ceux qui sont indispensables.
Voilà, ceux qui sont indispensables, et puis sur un site annexe, on peut éventuellement envisager de renvoyer les lecteurs à un site où là, tous les graphiques seront consultables. Donc, voilà. Alors, je vais vous donner déjà un exemple de la qualité de la source. Comment a-t-on désigné la Première Guerre mondiale en France depuis qu'elle a éclaté? Et là, vous avez toute une série de désignations de la Grande Guerre, comme nous disons aujourd'hui, et vous voyez qu'il y en a de multiples. Et donc, alors, ces chiffres, c'est des proportions sur 1 million ou sur 10 millions, vous savez, en lexicographie, les proportions. Donc, ne regardez pas la quantité exacte, enfin, l'axe vertical n'a pas une signification. Ce qui est important, ce sont évidemment les évolutions. Et vous verrez que, alors, vous voyez que là, au début, quand on est dans la... Alors, est-ce que la souris fonctionne ? Mais oui. Donc, tout à fait au début, la guerre éclate et l'état-major est absolument persuadé qu'elle va durer uniquement, qu'elle se terminera à Noël, quoi. C'est ça l'idée. Elle sera éclair, elle sera rapide. Grande guerre apparaît déjà, parce que grande guerre était une vieille expression, déjà utilisée sous Napoléon, déjà utilisée pendant la guerre de Crimée. C'était une expression. Mais grande guerre avec des minuscules. L'usage des majuscules est très récent. Hein. Par exemple, je me rappelle que la Révolution, la République, tout ça, ça s'écrit avec des minuscules dans les textes anciens. C'est assez tardivement qu'on a canonisé tout ça avec des majuscules. Donc il y a grande guerre, mais il y a surtout en rouge. La guerre de 14, c'est ce qui figure officiellement sur les brochures de l'armée, par exemple, qui sont incluses dans ce corpus. Et puis la guerre se prolonge, et là, on s'aperçoit que, alors décidément, ma souris, voilà, elle se promène, telle une mouche, on s'aperçoit que la guerre dure. Et à ce moment-là, la guerre de 14 commence à décliner. Et guerre de 14 va reprendre, mais quand arrive la guerre de 40, où là, il faut la distinguer de la guerre suivante. Ce qui, à mesure que la guerre se poursuit, ce qui devient populaire comme expression, c'est grande guerre. Et puis grande guerre va disparaître, parce qu'évidemment, quand la guerre se termine, ben, elle est datée. Et peu à peu aussi, grande guerre commence à acquérir ses majuscules. Alors, vous voyez, ça, on vient ici, puis ensuite ça disparaît, et puis maintenant nous sommes là. Le corpus, malheureusement, s'arrête en 2008. Il est en cours d'actualisation, mais il n'a pas encore été publié. Et lors des commémorations, vous l'avez peut-être vu, enfin, Grande Guerre l'a largement emporté sur les autres désignations. C'est assez, assez frappant. Vous avez ici donc l'expression datée, guerre de 14-18, ou 1914-1918, peu importe, qui évidemment reprend du poil de la bête quand on découvre qu'il y a une nouvelle guerre. Et donc, il faut bien classer les guerres les unes par rapport aux autres. Bon, je ne poursuis pas le... Ce qui est intéressant, c'est de voir ici, première guerre... Alors, première guerre mondiale, évidemment, quand on se rend compte que ça n'était que la première, mais c'est déclassé par les variantes avec majuscules. Ça, ce sont les manuels, ce sont les historiens, c'est toute la canonisation qui revient tardivement pour, en quelque sorte, transformer cet événement en événement d'histoire universelle, et idem pour grande guerre. Donc, vous voyez, ça vous donne quand même une idée de la fiabilité de la source. Elle est d'une extraordinaire précision. Les contemporains réagissent extrêmement rapidement aux événements. Il faut souvent moins d'un an pour que l'événement puisse... Et on peut lisser les courbes à volonté. On peut décider de prendre 3 années consécutives, 2 années consécutives, ou 5 ou 10, selon l'événement. C'est un outil d'une extraordinaire souplesse. Et voilà, donc j'en recommande l'usage. Et je vais vous en montrer quelques exemples. Alors, bon, des choses assez... Vous voyez par exemple comment le mot conscrit, qui était évidemment utilisé pendant toute la période napoléonienne, a finalement quasiment disparu auprès de mobilisé. Mobilisé comme adjectif, mais aussi, alors ça c'est incroyable dans cette source, il y a une analyse grammaticale automatique qui permet de distinguer les substantifs, les adjectifs et les verbes quand ils sont homophones, enfin qu'ils sont identiques. C'est ce qui est absolument inouï hein, comme qualité. Donc voilà, un exemple de... Je poursuis, mobiliser, démobiliser. Alors vous voyez que la Seconde Guerre mondiale a beaucoup moins utilisé le terme. Ben oui, parce que la mobilisation a duré peu de temps. Et donc je vais assez souvent faire des comparaisons entre les deux guerres, puisque cet outil permet de le faire. Alors, il faut quand même parler de la mortalité. Et là, vous voyez, mort comme participe passé, mort comme adjectif, n'est pas formidablement influencé par les guerres. Ce qui fait un bond sensible, c'est les morts comme substantif, qui est beaucoup plus pendant la guerre de 14 que pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis d'autres expressions comme évacués, il y a eu des évacués en 40, hein, tous les Alsaciens qui vivaient au bord de la frontière ont été évacués systématiquement. C'est le E qu'il y a dans la CIMAD, qui est une association humanitaire créée à cette occasion-là. Voilà. Alors là, vous avez par exemple mutilé et orphelin. Alors orphelin bouge un peu hein, la courbe rouge avec la guerre de 14, mais pas trop, parce qu'il y avait beaucoup d'orphelins. La mortalité, notamment des hommes précoces, créait un très grand nombre d'orphelins de toute façon. Et la guerre a un peu augmenté le nombre d'orphelins et l'attention qu'on y porte. Alors, évidemment, c'est pas représentatif du nom, mais de l'intérêt qu'on a porté à cette situation, alors que, évidemment, mutiler est en quelque sorte une conséquence directe de la guerre. Là, je ne l'ai pas montré veuve, mais il y avait beaucoup de veuves à l'âge de 50 ans. La probabilité d'être veuve était considérable. Plus de la moitié des femmes étaient déjà veuves à cet âge-là. Ce qui est nouveau avec la guerre de 14, c'est d'être une veuve jeune. C'est ça qui... Et donc, il y a des mouvements, au moins deux ou trois mouvements de veuves concurrentes qui vont se créer, en particulier lutter contre la Chambre Bleu Horizon qui voulait les empêcher de se remarier en hommage. Il y a toute une histoire qui a été racontée par Olivier Faron, notamment dans un très beau livre sur les pupilles de la nation. Donc là, la notion de veuve de guerre était totalement inconnue avant, alors qu'il y en avait évidemment, mais c'est vraiment une des créations de la guerre de 14. Bon, les populations civiles ont... Alors, ça, c'est un exemple où vous pouvez interroger simultanément plusieurs corpus. Ça, c'est le corpus anglais de Grande-Bretagne, le corpus allemand, le corpus français, et vous voyez comment, par exemple, la notion de blocus a été importante ou pas dans ces différents pays, mais je vais passer rapidement. Regardons un petit peu toutes les allusions aux destructions, aux ravages de la guerre, des expressions extrêmement simples et qu'on trouve régulièrement dans tous les récits de guerre, comme maison incendiée, village incendié, ville en flammes. Vous voyez que la guerre de 14 a été ressentie beaucoup plus vivement que la Seconde Guerre mondiale, où toutes ces expressions sont à peine apparentes. Elles l'étaient davantage dans les guerres du Second Empire, par exemple. Des expressions comme massacre, évidemment, là, vous avez les massacres modernes, mais vous avez aussi, à chaque fois, le rebond historiographique sur des événements passés. C'est ce qui rend, évidemment, la source parfois un peu complexe à analyser. Je vous signale que lorsqu'on a, lorsque chaque fois qu'on produit ces graphiques, s'affiche en dessous, là, je ne l'ai pas montré, des périodes correspondant à des tournants dans les courbes. Vous cliquez dessus et vous avez accès aux ouvrages de Google qui correspondent à cette période. Et donc, vous pouvez à ce moment-là découvrir un peu le genre de contexte. Voilà, c'est comme ça que j'ai découvert, je m'intéressais à masse et élite, j'ai découvert qu'au XVIIIe siècle, il y avait un sens d'élite que j'ignorais totalement, une élite de bons mots, une élite de poèmes, ça voulait dire anthologie, florilège, bon, ces choses-là. C'est grâce à Google Books que j'ai découvert, donc ça peut... Parce qu'évidemment, la continuité du sémantique d'une notion au cours des siècles est quelque chose de problématique, mais vous pouvez le vérifier en allant regarder les références correspondant à chaque période de la cour. Ça, c'est quand même un atout incroyable. Alors, si on regarde, par exemple, horreur, carnage, atrocité, flot, bain de sang, tout ça, je ne l'ai pas inventé, c'est en lisant, évidemment, les ouvrages de l'époque que j'ai vu à quel point ça revenait. Là encore, une fois de plus, vous voyez que ces expressions étaient très fortes autrefois. Souvent, d'ailleurs, c'est assez intéressant, quand vous regardez les références, c'est souvent des références bibliques. La culture biblique et références bibliques étaient vraiment très, très importantes dans la production imprimée et dans les... Mais là, c'est de la réalité qu'il est question. Et vous voyez à quel point la guerre de 14 a finalement été perçue comme étant destructrice, ravageuse, beaucoup plus que la Seconde Guerre mondiale, alors que, évidemment, les atrocités de la Seconde Guerre mondiale, on sait ce que c'est, mais ça n'a pas pris cette forme-là, ça n'a pas été... Voilà, c'est pour ça que dans la mémoire des Français, dans les perceptions immédiates et sans doute dans la mémoire, les choses n'ont pas été... Voilà. Alors, quand on reprend, et c'est ça qui est extraordinaire avec cette courbe, vous voyez, quand on reprend les choses en commençant en 1700, en général, quand on commence en 1730, 1740, les chiffres sont déjà assez stables. Ça inclut la Révolution française, ça c'est très intéressant. Et vous voyez à quel point tout ce vocabulaire de carnage, atrocité, flot de sang, etc. Bon, mais surtout les horreurs de la guerre, bon, toutes ces expressions étaient quand même extrêmement utilisées. La Révolution française est quand même un pic dans l'horreur. Ça, c'est absolument clair. Et ce qui vient ici dans les années 1820, c'est le rebond historiographique sur la Révolution française. C'est la description rétrospective des horreurs de la Révolution française. Et au milieu, vous avez le pic napoléonien, puisque Napoléon, c'est la censure sur tout ça. Il est interdit d'en parler. Donc, vous avez très régulièrement, les courbes s'effondrent sous Napoléon, on l'oublie un peu, de même que la courbe droit de l'homme disparaît sous Napoléon, et revient après. Enfin, voilà. Donc, vous voyez à quel point on arrive à travers ces données à apercevoir quand même beaucoup de choses. Et d'une certaine manière, tout ceci était un peu en train de disparaître. On était entré dans une période de paix prolongée, malgré les guerres du Second Empire. Et évidemment, la Seconde Guerre, beaucoup plus que la Première Guerre mondiale, beaucoup plus que la Seconde, a remis au jour toutes ces notions. Un petit zoom, en quelque sorte, que je viens de publier dans la revue Population. Donc c'est un peu la même chose. Alors quelqu'un parmi les rédacteurs en chef de la m'a dit, mais il faudrait mettre Holocauste. Alors en fait, il se trouve que Holocauste a été employé un peu plus pendant la Première Guerre mondiale que pendant la Seconde Guerre mondiale, parce que sur le coup, dans la Seconde Guerre mondiale, on n'a pas parlé d'Holocauste. C'est une expression qui est tardive, qui, alors vous la voyez ici en noir, l'expression Holocauste nous est venue par le monde anglo-saxon, avec grand H et au singulier, et puis Shoah, ça c'est vraiment l'effet Lanzmann, c'est une expression officielle israélienne tardive, mais qui n'a absolument regardé le corpus étranger, ça n'existe pas dans les autres pays qui continuent à parler d'Holocauste. Mais ce qui est intéressant, c'est que dans toute la littérature de la Première Guerre mondiale, où l'esprit religieux imprègne profondément la population, et en tout cas une partie importante des combattants, la comparaison avec l'Holocauste, c'est-à-dire le sacrifice intégral, le sacrifice le plus fort qu'on pouvait faire dans les références bibliques, eh bien, est très présente, et jointe à la notion de sacrifice. Hein, je suis prêt pour l'Holocauste. Vous avez ce genre de formule qui était assez fréquente dans les récits ou dans les lettres qui ont été publiées des combattants ou des survivants. Voilà, bien sûr, nous savons maintenant davantage que c'est que les massacres, on en parle, mais voyez à quel point les contemporains ont immédiatement réagi à tout ça. Alors, il y a des expressions qui aujourd'hui ont un peu disparu, comme œuvre de mort. Et puis, peu, il y a des indices sur toutes les réactions à tout ça. Tant de morts, trop de morts, assez de morts. Alors là, l'application Ingram Viewer est extraordinaire parce que vous pouvez taper un joker, un astérisque, deux morts. Et puis, vous voyez ce qui apparaît. L'expression millions de morts ou tant de morts. Donc, vous avez les 10 expressions les plus fréquentes se terminant par deux morts, et vous découvrez, il y a une fonction exploratoire aussi qui est possible avec ça. Par exemple, là, c'est comme ça que j'ai découvert que l'expression « million de morts », eh bien, ça commence avec la guerre de 14. On ne comptait pas les morts par millions, alors je vous épargne toutes les courbes, on comptait les morts par centaines, par milliers, mais l'idée de compter les morts par millions, c'est quand même quelque chose de tardif, et là, on voit bien à quel point la guerre de 14 est une innovation, bien sûr, rattrapé et plus que rattrapé par la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Mais alors que des expressions comme « couvert de mort », qui se réfèrent plutôt au spectacle du champ de bataille, elle, évidemment, est classique, est l'expression une des expressions les plus fortes pendant les guerres napoléoniennes, par exemple. Donc on voit bien le changement d'échelle qui se retrouve dans le vocabulaire. Alors pourquoi meurt-on ? Mourir pour la patrie était évidemment une expression qui est née sous la Révolution française, mais on n'est pas mort pour la patrie pendant la guerre de 14, très peu. Et on est mort pour la France. On est mort pour la patrie, oui, pardon. Mort pour la patrie. Oui, mourir pour la patrie est une expression républicaine, mais mort pour la patrie, effectivement, est important pendant la Première Guerre mondiale, mais concurrencé par mort pour la France. Évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, on ne sait pas trop où on combat, comment, etc. Et la question n'est pas aussi simple. Voilà. On peut faire des analyses assez intéressantes. Par exemple, vous regardez « tomber en vain » et vous ne faites pas « tomber en vain ». Vous apercevez que dans l'immense majorité des cas, l'expression « tomber en vain » fait partie de l'expression « pas tomber en vain ». Il y a comme une espèce de dénégation. Tout de même, ils ne sont pas tombés en vain. Enfin bon, ça donne évidemment une idée de l'extrême tension dans laquelle tout ce sacrifice a été vécu. Vous voyez l'extraordinaire précision aussi du recouvrement des formules. Alors, esprit de sacrifice.
qui a été vraiment fondamental pendant, comme ressort de la, des combattants. Et je pense que, vous savez, il y a tout le débat d'historiens sur culture de guerre ou pas culture de guerre, qui est un débat un peu exacerbé, quand, rétrospectivement est un peu exagéré quand même. Bon, je vais y revenir. Bien sûr, don de soi, don de sa personne est une expression qui avait été mise en honneur pendant la Seconde Guerre mondiale par le maréchal de Pétain, mais vous voyez que c'est alors, elle se recouvre en partie, mais en partie seulement. Et là, je trouve ce graphique intéressant. On voit à quel point, finalement, des vertus d'abnégation, de dévouement, d'héroïsme, mais surtout ces vertus-là, qui sont d'abord, au fond, des vertus chrétiennes, ont été mobilisées par la guerre de 14. Non, pas, la guerre de 14 ne les a pas créées, elle a puisé dans ce fond sans lequel, peut-être, les soldats, les combattants n'auraient pas résisté comme ils ont su le faire. Ça intervient un peu, mais vous voyez, au total, c'était quand même en déclin. Pardon. La référence à ces valeurs était quand même nettement en déclin. La République avait fait son œuvre d'une certaine manière, et la guerre a restauré un certain nombre de valeurs, comme aussi l'héroïsme, évidemment. Ça a été beaucoup moins le cas dans la Seconde Guerre mondiale, et vous voyez à quel point toutes ces valeurs-là sont en déshérence dans la période récente. Oui, c'est quand même intéressant d'avoir comme ça Bon, mais j'ai conscience que mes commentaires sont ultra rapides, qu'il faudrait ensuite aller... Vous savez, c'est un peu comme l'archéologie aérienne, vous survolez un paysage pour repérer des ruines, etc. Mais après, il faut quand même que l'archéologue arpente le terrain pour aller vérifier si ce qu'il a décelé d'en haut correspond à quelque chose de précis. Voilà. Évidemment, pendant la guerre, on s'interroge sur la durée de la guerre. Et la guerre de 14 a été l'occasion d'une lourde interrogation sur sa durée, beaucoup plus que celle de 40, curieusement. Il y a des traces, on a parlé très tôt des fusillés, alors beaucoup plus que des mutineries, mais évidemment, entre les deux guerres, ça n'a pas le même sens. On voit ici la commune qui apparaît. Voilà, fusillé ou passé par les armes, enfin bon, je ne vais pas m'arrêter à chaque... Il y a la lassitude de la guerre, la lassitude des soldats, là est vraiment extrêmement bien relevée, mais aussi pendant toute la période, à quoi servent toutes ces guerres, les guerres plus ou moins coloniales, les expéditions militaires de l'époque Napoléon III ont quand même soulevé des réticences très très vives, et ensuite on a eu un creux énorme, vous voyez, toute cette période de paix, à quel point finalement la Première Guerre mondiale tranche sur tout ça. Voilà. D'où des slogans comme « guerre à la guerre », vous voyez l'intérêt d'avoir pouvoir, on peut taper des expressions jusqu'à 5 mots, ce qui est quand même très intéressant. Fraternité, fraternisation, on voit que, évidemment, fraternité c'est un terme révolutionnaire. On voit que, par contre, la fraternisation, qui peut être la fraternisation au sein de l'armée, mais aussi avec l'ennemi, et là, j'ai lu peut-être une quinzaine de récits de la guerre de 14, tous évoquent, à un moment ou à un autre, des scènes de fraternisation avec l'ennemi. L'écart avec les officiers était tel, si durement ressenti, que les combattants ordinaires se sentaient plus proches mutuellement qu'ils ne l'étaient parfois de leurs officiers. Et l'écart est encore beaucoup plus grand dans l'armée allemande quand on lit les récits allemands. Voilà. Je vais à marche forcée, parce qu'on arrive à la fin. Est-ce qu'on s'est battu pour l'Alsace, pour récupérer l'Alsace et la Lorraine? Je suis alsacien, donc fatalement je me suis intéressé à cette question. On voit qu'effectivement, on voit que Strasbourg n'intéressait quand même pas énormément la France avant la Première Guerre mondiale. Bien sûr, avant l'annexion de 70, vous voyez, ça fluctue. Il faut quand même savoir que à l'approche de la Première Guerre mondiale, tout le monde s'était habitué un peu doucettement à l'idée que l'Alsace allait rester allemande, y compris les Alsaciens eux-mêmes. Hein. C'est les comportements bizarres des Allemands et les exactions des Allemands pendant la Première Guerre mondiale qui ont retourné l'opinion publique alsacienne, qui finalement a accueilli évidemment les bras ouverts l'armée française. Enfin, l'histoire est un peu compliquée là, de ce point de vue-là. Bon, je passe. Vous voyez, l'intérêt pour les Alsaciens lorrains, il se concentre sur une période bien précise, mais enfin, ensuite, il s'étiole quand même pas mal. Voilà, alors je vais passer rapidement sur obéir au chef et obéir au chef au pluriel, ce n'est pas la même chose. On obéit au chef au pluriel pendant la Première Guerre mondiale, davantage au chef unique dans la Seconde. Et puis, je vais m'arrêter un petit peu là-dessus, de que s'agit-il de défendre ? Défendre la civilisation, ça a été un grand thème de la guerre de 14. On a beaucoup parlé de la « Kultur » allemande dans les textes français, qui était donc par ironie illustration de la barbarie allemande. Donc là, c'est dans le corpus français, et ça, c'est vraiment propre à toute la propagande anti-allemande de la guerre de 14. On voit aussi que des expressions toutes simples. Alors, il faut y réfléchir. Mais notre pays, quand est-ce qu'on dit notre pays ? Quand est-ce qu'on se sent solidaire ? C'est pendant les guerres, évidemment, que l'expression notre pays pointe de façon de même que notre territoire, nos frontières, etc. Notre empire ayant évidemment beaucoup décliné. Donc je passe là-dessus. Mais aussi, chaque guerre est l'occasion de s'interroger sur le passé, mais aussi sur l'avenir. Et ça, c'est assez intéressant. Et également, alors je passe rapidement, une expression assez curieuse, mais là il ne faut pas se tromper, c'est notre race. Hein, nous défendons notre race. Évidemment, c'est race telle qu'on l'employait pendant la Première Guerre mondiale, telle que le général de Gaulle encore l'emploie dans les années 30, qui n'est pas du tout le sens que nous avons maintenant. Il y a la race allemande, la race française, on défend notre race. Mais il se trouve que les Français ont fait un usage particulièrement fort de ce genre d'expression au moment de la guerre de 14, alors que les Anglais l'avait fait bien plus tôt. Voilà. À la guerre comme à la guerre. C'est... Alors là, vous voyez, l'expression est trop longue pour figurer intégralement dans une requête. Et donc, j'ai dû la tronquer, mais il n'y a pas de doute que guerre comme à la guerre ne peut faire partie que de l'expression à la guerre comme à la guerre. Voilà. Je passe. D'autres formes de dénonciation. Vous faites enrichi, joker, la guerre, et vous trouvez enrichi de la guerre, par la guerre, pendant la guerre, enrichi à la guerre. Et là encore, c'est une dénonciation qui a été forte, évidemment, pendant la Seconde Guerre mondiale, mais bien plus pendant la Première. Et puis, des notions sont apparues, comme nous, on parle de planquer, mais pendant la guerre, il y avait embusqué, qui était une expression de chasseur typique. Quand c'était un adjectif, c'était une expression tout à fait courante, mais les embusqués. Comme substantif, ça c'est vraiment une création de la guerre de 14. Il y a même, comme je le mentionne, une loi est votée contre l'embuscage. Qui était embusqué, qui était à l'arrière, qui était au front, c'était pas si simple à déterminer, mais ça a été une grande expression de l'époque. Et puis, je vais peut-être terminer là-dessus. Quand on peut faire des choses sur le très long terme, vous voyez, on peut commencer en 1500, mais enfin bon. Alors parfois, il est utile de multiplier, on peut multiplier par une fréquence, une des courbes, pour voir si les courbes ont la même forme. C'est un procédé qu'on peut utiliser très aisément. Et là, vous voyez à quel point la gloire et la victoire sont vraiment très très liées dans tout le vocabulaire du XVIIe siècle, notamment dans tous les discours royaux ou les mémoires militaires, etc. Et puis ensuite, les notions se dissocient. La notion de gloire se dissocie, la notion de victoire. Ça, c'est très intéressant de voir quand des notions sont liées, quand elles se dissocient. Je vais vous donner... Alors, d'autres expressions sont de l'époque, comme livre noir ou livre blanc, pour dénoncer les exactions de l'ennemi. Là encore, c'est une invention de la guerre de 14. Et puis, nous arrivons à la fin. Tout à fait à la fin, j'en rassurez-vous. On a parlé de l'identité des étrangers. Il y a une grande inquiétude pendant la Première Guerre mondiale et dans l'immédiate après-guerre sur le contrôle des étrangers, qui est vraiment apparu pendant... c'est aussi à cette époque-là qu'on crée la carte d'identité. Vous voyez que la notion de carte d'identité, création de la guerre, finalement, va perdurer, bien sûr, jusqu'à nos jours. Voilà un petit peu les... de même que la notion d'ancien combattant, qui est destinée à dire, attention, nous ne sommes pas simplement des vétérans, nous sommes des anciens combattants, nous ne prenons que ceux qui ont réellement combattu, pas les embusqués. C'est encore une notion de... Voilà. Donc j'ai été un peu loin de guerre et santé, j'ai évoqué les désastres de la guerre, j'espère que vous ne m'en voudrez pas et que l'avantage de découvrir cet outil, qui est quand même intéressant, vous permettra de me pardonner. Merci.
Merci. Alors, comme je propose, si quelqu'un veut intervenir, poser quelques minutes, parce que... Bon, allez-y, M. Vallin.
Vous appuyez. Donc, je dois dire que je suis toujours épaté par ces présentations que tu fais à partir de Google. C'est vraiment... enfin, c'est extraordinaire, quoi. Mais il y a quelque chose qui m'a interpellé tout à l'heure, parce que, en fait, quand tu parles de mots qui expriment l'opinion, tout ça, on comprend très bien, c'est très intéressant. Mais quand tu parles de mots qui sont censés nommer des faits, par exemple orphelin, veuf, choses comme ça, ce qui serait très intéressant, c'est de comparer cette courbe de l'apparition de ces mots dans la littérature avec la réalité des choses. Et alors là, ce serait tout à fait flagrant, c'est quand tu parles évidemment de victimes de l'Holocauste, tout ça. Donc, alors, il n'y a aucune relation entre les deux, quoi, pratiquement. Hein. Donc je crois que ça serait vraiment bien de temps en temps de montrer l'opinion, l'usage des mots et les faits.
On a un exemple en démographie qui est baby boom. Baby boom est très peu utilisé quand émerge le baby boom. Quelqu'un comme Alfred Sauvy récusait l'expression parce qu'elle était journalistique, elle était américaine, elle était métaphorique, une métaphore boursière d'abord, le boom. Et ça faisait au moins trois raisons de récuser le concept. Et c'est très tardivement, seulement dans les années 70, que l'expression baby boom décolle, hein, de même que les 30 glorieuses sont plutôt postérieures aux 30 glorieuses. Enfin bon, c'est donc effectivement, il y a des cas où le décalage est flagrant et où il faut bien voir, en allant regarder les livres qui alimentent toutes ces courbes, si on est dans le mémoriel, dans la critique rétrospective, dans la canonisation tardive, etc. Enfin, j'ai évoqué quelques-uns de ces phénomènes, et pas ça. Mais vous voyez qu'aussi, ces courbes, c'est particulièrement net dans le graphique initial sur les désignations de la guerre de 14, également reflètent aussi des événements. Et aussi, enfin, ce qui est intéressant dans le cadre des désignations, c'est que quand arrive la Seconde Guerre mondiale, il faut réinterpréter la première. Il faut réinterpréter la précédente comme étant une première. Et là, la réaction était également très rapide. Enfin, c'est...
Est-ce que tu as regardé une expression comme « c'est la dernière » ou « il n'y en aura plus » ou « la dernière d'air » Bon, bien sûr. « Plus jamais ça ». Ouais.
Oui. Alors, « derdéder » est pas tellement utilisé pendant la guerre et intervient plus dans les récits. Et vous savez que ces récits, ils ont mis longtemps à être publiés. Hein. Genevoix, par exemple, il faut attendre les années 50 pour qu'il termine vraiment la mise au point de ces différents volumes qu'il a mis ensemble, qu'il a un peu réécrit. Bon, c'est déjà si merveilleusement écrit qu'il n'y a plus besoin d'y revenir. Mais, et puis, vous avez des récits très tardif. Vous avez donc finalement, quand on regarde Derdéder, je ne l'ai pas ici, j'aurais dû le mettre, c'est en fait très postérieur au fait.
Réagir sur Derdéder, je me pose la question, parce que c'est uniquement les ouvrages, c'est pas la presse.
Vous avez raison, oui. La presse n'est pas incluse, voilà. Ce qui est évidemment une limite, mais vous avez quand même toutes les brochures, oui. Vous avez toute une, ce qu'on appelle un peu la littérature grise, oui. Lorsqu'elle est stockée dans les bibliothèques, est très présente. Les brochures militaires, par exemple, sont là.
Parce que ce que je dis, c'est Derdéder, on l'a beaucoup dans le mouvement associatif et dans la presse associative. Enfin, je veux dire, c'est parce que c'est l'expression là des anciens combattants dans la presse. Moi, ce qui m'a amusé, c'est évidemment ce qui touche au Second Empire, quand vous l'avez, parce qu'on le sent. Là, on a la preuve, je veux dire. Bon, des fois, dans les récits, on le trouve, les mots et tout. Mais l'autre question, je voulais vous poser une question sur le mot « handicapé ». Parce que là, dernièrement, j'ai eu le problème avec... un questionnaire qui nous a été posé, donc au sein du ministère, à propos de handicapés mentaux. Et pour handicapés pas mentaux, handicapés psychiques. Et moi, ça m'a fait hurler. parce que handicapé, c'est quand même très connoté, etc. Si vous maintenant, les gens qui souffrent de PTSD, vous dites que ce sont des handicapés, ça pose problème. Et je pense que maintenant, on a quand même du mal à dire mutilés. Et les gens qui ont été mutilés, justement, en Afghanistan ou autre, je pense qu'on emploie maintenant le mot handicapé. Je trouve que ce serait intéressant de voir à quel moment il y a une espèce de basculement que l'on trouve là, parce que ça n'a pas du tout le même sens, ça s'inscrit dans une autre logique. Vous voyez ce que je veux dire ?
Cet instrument est addictif. Quand vous commencez à le tester, vous avez mille idées comme celle qui vous vient, qui est extrêmement intéressante. Je l'ai fait d'ailleurs à un certain moment. Enfin, j'ai stocké ça et classé sous différents... Le problème, c'est après, c'est très difficile de publier tout ça. C'est pour ça que Jean se rassure. Je ne mettrai que 4 ou 5 figures, peut-être au grand maximum.
Il faut que ce soit indispensable.
Voilà, il faut que ce soit indispensable. Mais on peut très bien renvoyer un site. On peut très bien renvoyer un site qui...
Oui, est-ce que vous pourriez monter le premier graphique, voilà, sur les pertes. La guerre en 1914, pas la guerre de 14, mais la guerre en 1914, elle est faite par l'armée d'active et l'armée de réserve. C'est-à-dire les trois classes qui sont sous les drapeaux, 11, 12, 13, et 11 classes précédentes qui appartiennent à la réserve. Au-delà, c'est la territoriale, mais la territoriale ne fait pas grand-chose en 14. Plus tard, elle le fait. Bon, et... La classe 14 ne fait pas du tout cette guerre-là. Elle est incorporée en octobre 1914 et elle n'arrive sur le front qu'au printemps, à la fin de l'hiver en 1915, 6 mois plus tard. Ce qui veut dire que ça explique cette différence-là. Et ceux qui, vous voyez, qui sont nés en 1869 sont donc des réservistes. Oui. Ce qui explique cette différence de courbe, avec un taux de perte un peu moins fort. Voilà. Il n'y a presque pas de différence entre les réservistes et l'armée d'active au début de la guerre. Des réservistes se retrouvent tout de suite en première ligne, sont mélangés dans les corps d'armée, donc il n'y a pas de différence. Les territoriaux, oui, ça va changer plus tard. Ça change à partir de 1916, on trouve des unités territoriales en première ligne. Et en plus... Les pertes ont été telles que le recrutement régional qui était celui appliqué cesse. On bouche les trous. Donc on envoie des gens qui sortent des centres d'instruction là où on en manque. Si bien qu'on retrouve dans des régiments de territoire, j'ai trouvé ça par exemple dans des journaux de marche, les morts du même jour, vous trouvez un homme de 45 ans chez les territoriaux et un homme de 19 ans. Qui est affecté dans un régiment territorial. C'est si vrai qu'en 1917, on ne fait plus qu'une seule, un seul type de régiment. Il n'y a plus de différence entre réservistes et actifs. Les territoires restent quand même à part parce qu'il y a des travaux à faire à l'arrière, donc on les emploie différemment. Mais ça se traduit bien dans vos courbes là.
Enfin, quand on va faire les comptes, c'est son pouvoir fantastique de révélation.
Oui, c'est ça.
Mais il faut évidemment associer ça à ça, les travaux aussi précis que ceux que vous faites. Oui.
L'expression « grande guerre ». Alors, j'ai trouvé dans l'illustration, il doit être le troisième numéro après le déclenchement de la guerre, dans les dessins de Henriot. À la quatrième de couverture, il y a toujours une bande dessinée par Henriot. Et là, il y en a une où un gamin d'une quinzaine d'années dit à son père, il dit « Est-ce que la guerre va durer jusqu'au moment où je pourrais y aller ?» Et le père répond « Non, la grande guerre sera finie avant. »